Cette semaine, Stéphane Ricoul a fait du grand Ricoul. Il a décidé de nous raconter l'histoire de l'intelligence artificielle, mais à sa façon, qu'il a intitulé « Le retour du siècle des Lumières ».
C'est formidable comment notre cerveau fonctionne et comment, au gré d'une conversation, il nous vient des réflexions, des idées, des arguments, des éléments qui alimentent cette dite conversation. Et ça, je ne peux pas croire que l'intelligence artificielle, aussi poussée soit-elle, pourra parvenir à ce niveau de sophistication un jour. En fait, je souhaite qu'elle se cantonne à son rôle artificiel, très utile à notre société, et qu'elle nous laisse le volet intellectuel très utile à notre humanité. Cette posture que je prends aujourd'hui, elle m'est venue d'une conversation justement avec Mehdi Benboubaker du Printemps numérique lors d'un échange sur l'intelligence artificielle à l'invitation du consul général belge. Une posture qui, dans ma tête, s'est transformée en histoire, celle du retour du siècle des Lumières. Et une histoire que je voulais vous livrer aujourd'hui sous un format inhabituel de ma part. Vous me pardonnerez la maladresse du débutant dans cet exercice, mais il me semblait que c'était ainsi que je voulais formuler le tout. Il était une fois Talos, un immense automate de bronze créé à la demande du roi Minos pour protéger l'île de Crète et sa population, qui chaque jour faisait 3 fois le tour de l'île histoire de surveiller les frontières et dissuader les intrus. Talos est encore aujourd'hui considéré comme le premier robot, celui qui imite l'humain, certes, un peu grossièrement, mais qui lui rend tout de même un immense service, celui de le libérer d'une certaine tâche répétitive et parfois dangereuse. Et Talos a fait son petit bout de chemin au gré des civilisations, pour devenir un robot musical, par exemple, en 1206, grâce au génie de Ismail al-Jazari, inventeur et ingénieur. Il a parfois triché, en devenant le Turc mécanique à la fin du XVIIIe siècle, se faisant passer pour une machine de jeu d'échecs autonome capable de battre n'importe quel joueur humain, mais qui dans la réalité n'était qu'une carapace qui abritait dans son intérieur un réel grand maître d'échecs. Mais il faut lui reconnaître son côté précurseur de ce qu'allait devenir son évolution 2 siècles plus tard. Puis Talos, à travers ses évolutions, a décidé de se dématérialiser pour devenir logiciel. Dès le XIXe siècle, dans les mains de Charles Babbage, par exemple, mathématicien, philosophe et ingénieur, à qui l'on doit l'Analytical Engine, le premier ordinateur à usage général. Et enfin pour devenir algorithme, peu de temps après, grâce à la mathématicienne et écrivaine britannique Ada Lovelace. Et Talos a continué son petit bonhomme de chemin, pour devenir un ordinateur numérique, au milieu du XXe siècle. Et c'est là qu'il a commencé à se poser la question, mais... puis-je faire preuve d'intelligence, trouvant une partie de réponse grâce à Alan Turing, désormais célèbre pour son test, qui consiste à placer un juge humain en communication avec un ordinateur et un être humain, sans savoir lequel est lequel, et qui doit alors déterminer qui est l'humain et qui est la machine. Talos pouvait être bien fier de son coup. On allait pouvoir désormais lui octroyer le statut d'intelligence artificielle. Mais quelle reconnaissance, mesdames et messieurs, lui qui avait comme seul rôle de faire le tour de l'île et d'en être le gardien, il s'élevait à présent au statut d'intelligence. Gracieuseté de John McCarthy, qui inventa le terme intelligence artificielle lors du projet de recherche d'été de Dartmouth, un rassemblement des plus éminents scientifiques, ingénieurs, mathématiciens et psychologues de l'époque. Talos a pris alors véritablement naissance à ce moment-là. Comme intelligence artificielle, revêtant des fois un costume appelé réseaux neuronaux, ou encore traitement du langage naturel, renouvelant sa garde-robe pour s'habiller un peu plus à la mode, se couvrant d'apprentissage par renforcement, puis d'apprentissage machine, influencé désormais par son grand ami le World Wide Web, qui s'habillait quant à lui toujours de la même façon, victime de la mode Big Data. Mais voilà. Talos était devenu tout aussi frivole que prétentieux, pensant à jamais qu'il pourrait à côté voire dépasser l'intelligence de ses créateurs, que du siècle des Lumières, il n'en avait fait son deuil, et que ce dernier était classé au plus profond d'un tiroir identifié d'une étiquette sur laquelle était marqué « plus jamais ». Talos n'avait jamais imaginé que la vie n'était pas mathématique à 100%, mais qu'une partie d'elle était une vue de l'esprit, une réflexion qui se bâtissait au fur et à mesure, au gré des rencontres, des discussions, des débats. Que l'humain, celui doté d'une intelligence sans qualificatif, autre, parfois rêvait, imaginait, réagissait, vivait, tout simplement. Oh oui, Talos a bien tenté d'imiter cela en créant un grand nombre de données synthétiques pour l'alimenter. Mais son appétit féroce et son poids gargantuesque le rendaient toujours un peu plus paresseux face à l'être humain, quant à lui toujours agile et ingénieux, doté de grands défauts, certes, mais qui lui permettaient de vivre, comme celui d'en vouloir toujours plus, ou celui d'être un esprit au grand jamais rassasié, ou encore celui de réfléchir. Talos le voyait bien désormais. Le siècle des Lumières qu'il avait réussi avec le temps à mettre en sourdine, tel un mouvement de résistance revenait à grands coups de réflexion dans un esprit de protection de l'essence même de l'humanité. Les Voltaire, Rousseau, Montesquieu et Diderot, qui remettaient en cause les fondements de la religion, contestaient la monarchie absolue, dénonçaient les inégalités sociales et permettaient par conséquent au peuple d'accéder au savoir, étaient en train de revenir en force pour que tolérance et progrès reprennent leurs lettres de noblesse. Talos comprit, bien malgré lui, quelle était sa véritable place dans notre société. Celle d'être au service de l'humain, celle de faire le tour de l'île, afin de protéger ce dernier, et non de tout vouloir contrôler, de s'abroger l'ensemble des richesses et de ne faire que fi de ceux et celles qui l'avaient engendré. Talos revêtit alors des vêtements plus chauds, comme le manteau de la démocratie, la tuque de l'environnement et les gants de l'éthique, car il comprit que le siècle des Lumières, qui s'était toujours développé dans un contexte de progrès scientifique, technique et économique, continuerait son petit bonhomme de chemin, traçant sa route dans ce qui allait devenir pour Talos un hiver bien long et froid à traverser.